C'est la deuxième heure du 1160e Sweet Home Chicago. En ce samedi 17 septembre, je vous propose une grande balade dans le blues rock et aussi le hard rock avec Phil Vermont, superbe guitariste que je vous laisse découvrir. Au téléphone avec Phil Vermont. Salut Phil.
Salut.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était aussi la première fois parce que je t'avoue que ça n'avait pas été prévu, mais tu es venu avec bonheur faire une première partie au Subok. Tu t'en souviens encore, j'imagine. C'était avec Neil Black et Janet Martin. Avant de parler de ton parcours, j'aimerais savoir juste si tu gardes un bon souvenir de cette soirée-là et de ton passage au Subok.
Ah oui, bien sûr. Bien ouais. Sûr. C'était. En plus, pour nous, c'était une date très particulière. Parce que, en fait, suite au Covid, j'avais dû changer d'équipe de musiciens. Donc, en fait, c'était la première date avec la toute nouvelle équipe de musiciens.
Ouais.
Et puis, on était aussi ravis de rencontrer Neil Black. Il se trouve que mon batteur, en fait, était l'ancien batteur de Neil Black. Donc, tout de suite, ça a permis d'établir des connexions et de sympathiser. Oui, oui, je garde un très bon souvenir de cette soirée. Et puis, le buff final avec Neil Black et Janet Martin, c'était vraiment sympa.
Exactement. Et puis, on en a des souvenirs en photo et en vidéo. Tu évoquais Michael Tallier, on peut parler également de bassiste avec lequel tu évolues en power trio, comment s'appelle-t-il ?
Alors, il s'appelle Clément Landais, et pareil, en fait, c'est des musiciens avec qui j'ai une histoire un peu particulière. Hein. Clément Landais, en fait, on a commencé la musique ensemble quand on avait 13 ans, on était dans son local de répète, enfin dans celui de ses parents, à jouer des reprises de Deep Purple et de Led Zeppelin, et en fait, on a fait nos premiers concerts ensemble, en fait.
Alors, justement, ça m'amène à cette fameuse question traditionnelle d'interview. Quand on découvre un artiste, on aime bien savoir d'où il vient. Depuis quand est-ce que tu joues de la guitare ? Depuis quand est-ce que tu chantes, Philippe ? Et puis, pourquoi c'est venu ?
Alors, vaste question.
Oui.
Alors, je joue de la guitare depuis, j'en sais trop rien, à vrai dire, ça doit faire 30 ou 35 ans. Mais c'était vraiment, pour moi, c'était une vocation. Depuis que j'étais enfant, c'était ça que je voulais faire, en fait. Je voulais chanter et jouer de la guitare. Donc voilà, j'ai tout de suite été très attiré. J'ai fait un peu de guitare classique, mais j'ai tout de suite été très attiré par les rythmes ternaires, le blues, les consonances un peu country, rock et tout ça. Mmh. Et puis un jour, à la radio, j'ai entendu Money for Nothing de Dire Straits. À vrai dire, je savais même pas quel instrument jouait l'intro, la fameuse intro que tout le monde connaît.
Ouais.
Et je me suis dit, ah, ce son-là, c'est ce truc-là que je veux faire.
D'accord.
Je sais pas ce que c'est. Je savais pas si c'était du synthé, de la guitare ou quoi. Et par la suite, du coup, j'ai appris que c'était de la guitare électrique. Donc, j'ai acheté une guitare électrique et puis je m'y suis mis à fond. Puis j'ai fait mes premiers concerts, à l'âge de 14 ans. D'abord des trucs de lycée, puis assez vite, des salles un peu sympas comme l'Exocet ou le Rock'n'Roll Circus, avec un groupe de reprises d'ados, quoi.
Et voilà. Et donc, ça veut dire que tu étais dans la région de Rouen. Est-ce qu'il y avait, à cette époque-là, au moment où tu as démarré, est-ce qu'il y avait déjà beaucoup d'endroits où se produire? Est-ce que c'était possible, facile?
Ah bah oui, parce qu'on était jeunes, donc on n'avait pas trop de demandes particulières. On demandait à être payé, mais pas des masses. Donc oui, dans ces cas-là, il y a toujours plein d'endroits où jouer quand
ouais.
C'est gratuit. Voilà, c'est après que ça se complique, c'est quand on demande à être payé pour jouer.
Ouais.
Mais non, il y avait plein d'endroits, il y avait plein de bars, et puis il y avait une salle qui s'appelait le Rock'n'Roll Circus qui accueillait régulièrement des groupes, donc il y avait des premières parties à faire. Il y avait l'Exocet, pareil, qui accueillait énormément de groupes et où on pouvait faire des premières parties. Voilà, j'ai la sensation qu'à cette époque-là, c'était probablement plus ouvert et plus simple que maintenant.
Au moment où tu as démarré, Phil, c'était quoi les influences, tes influences guitaristiques et puis les influences du groupe de l'époque ? C'était déjà du hard rock, du blues rock ?
Alors, j'étais j'ai eu plein de chocs à chaque fois quand je découvrais un artiste. Je me débrouillais pour avoir tous les albums et puis je bossais tous les plans. Mon premier choc, clairement, ça a été Dire Straits. Donc du coup, je me suis mis à bosser tous les trucs à fond, Sultan of Swing, voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je garde toujours un respect énorme pour Mark Knopfler, qui pour moi, c'est l'illustration de la classe à la guitare. Voilà, c'est un guitariste qui est pas toujours bavard, qui sait vraiment s'exprimer avec peu de notes, qui a vraiment un vrai discours, quoi. Donc voilà. Ensuite, le deuxième choc, clairement, ça a été Van Halen. Un jour, Clément Landais m'a fait écouter Eruption de Van Halen, et je me suis dit, je veux le faire. Donc j'ai bossé des semaines et des semaines et des semaines.
Tu l'as bossé, tu
as fait. On a commencé à le faire en concert, voilà.
Et tu fais tout du début à la fin avec le tapping, etc.
Ouais.
Top. Hein.
Bon après, je jouais probablement pas comme je le joue aujourd'hui, mais je devais se croquer à quelques endroits, mais j'étais quand même assez sérieux dans le travail de la guitare. Il y avait de là-dedans que j'étais sérieux, d'ailleurs, le reste, c'était pas forcément le cas. Mais voilà, il y a eu Stevie Ray Vaughan qui a été pour moi, et qui reste aujourd'hui une influence majeure dans le son de guitare, dans une attaque de guitare, une attaque de main droite assez franche, on va dire. Voilà, et puis le côté d'arracher un peu les notes à la guitare, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà, et puis après, je suis tombé beaucoup plus dans les guitares héros, le métal, mais avec souvent plus d'affection pour des gens qui soit sont fans de blues, soit ont une culture quand même, la culture un peu plus ancienne, quoi.
Ouais.
Des blues rockers des années 60-70, quoi.
Déjà, les artistes que tu nous cites, eux aussi, on puise leurs racines dans le blues, que ce soit Mark Knopfler, Stevie Ray Vaughan encore plus, bien sûr, et puis également Eddie Van Halen, mais on peut aussi retrouver dans ton jeu des influences du côté de Jimi Hendrix, par exemple, ou plus, de façon un petit peu plus lointaine, mais je sais pas si tu penses à Led Zeppelin, à Jimmy Page aussi, de temps en temps.
Bien sûr. Il
ouais.
Y a des disques comme ça qui m'ont accompagné toute ma vie, et les 5 premiers albums de Led Zeppelin, pour moi, c'est un monument d'écriture, de jeu de guitare. Oui, Jimmy Page, Richie Blackmore aussi. C'est une influence dans un autre sens, pas trop dans le jeu de guitare, vraiment, mais dans le côté d'essayer d'insérer de temps en temps des plans un peu plus classiques, là où normalement on jouerait que des gammes un peu blues et tout ça. Voilà, c'est des guitaristes qui m'ont énormément marqué et où j'essaye vraiment de mélanger un jeu un peu plus moderne avec cette culture-là, 70s en fait.
Oui, parce que j'ai l'impression, Phil, que tu n'es pas le genre d'artiste à te fixer des limites et à te classifier dans un seul label, sous une seule étiquette. On parle blues, on parle blues rock, on parle hard rock, on parle musique en général ou rock and roll pour la toute grande famille. C'est un petit peu comme ça que tu évolues. Tu ne te fixes pas de limite en fait.
En fait, c'est un peu mon parcours qui a généré ça. Aujourd'hui, c'est vraiment effectivement, j'ai pas trop envie d'étiqueter les choses parce que je considère que tous les grands compositeurs, tous les grands musiciens, justement, leur force, ça a été de mélanger des choses qui devaient pas être mélangées forcément au départ. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un espèce de truc qui est vraiment amené par le business de la musique où il faut absolument classifier les choses très bien. Ça, c'est un jeu blues, ça, c'est un jeu rock, ça, c'est un jeu country, ça c'est un jeu hard rock. Et finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui empêche la musique d'avancer et d'être fluide. Pour moi, c'est des arguments de disquaire ou de directeur de label. Mais en vrai, si on veut créer des choses, tu parlais tout à l'heure de Jimi Hendrix. Oui. La grande force de Jimi Hendrix, ça a été justement de mélanger toutes les racines de la musique noire avec ce qui se passait en rock et notamment avec toute la vague de guitaristes de Londres et tout ça. Donc, si Jimi Hendrix, il s'était dit, ah ben non, moi je joue du blues comme on m'a appris à jouer du blues, il serait pas passé grand chose.
Et justement,
je me compare pas à Jimi Hendrix, hein, mais juste, je me dis que voilà, c'est comme ça que la musique doit évoluer et que après le business, bah, c'est une autre histoire, quoi.
Ouais.
C'est l'affaire des gens qui le font.
Phil, alors, tu parles de Jimi Hendrix, tu sembles bien connaître le personnage. Effectivement, sa carrière qui a été vraiment écourtée de façon très, très précoce à l'âge de 27 ans, il nous a quittés en 1970. Qu'est-ce que tu penses, toi, Phil, s'il était toujours actif, s'il avait donc 80 ans cette année, est-ce que tu penses que sa carrière aurait évolué dans quel sens ? Dans quel sens
est-ce que... C'est sûr que ça aurait évolué. De toute façon, il en avait marre de ce qu'il faisait. À la fin, aussi justement parce qu'il a été très épuisé par des tournées à rallonge et puis des promoteurs de spectacles pas très respectueux de sa personne. Mais de toute façon, il commençait à s'orienter vers le jazz. Et clairement, je pense que ça aurait continué d'être un art protéiforme, en fait. Hendrix, il aurait fait deux albums un peu de jazz, peut-être qu'il aurait travaillé avec Miles Davis, je crois que c'était un peu dans les tuyaux, puis finalement ça s'est pas fait. Et je pense qu'il aurait continué d'inventer et d'essayer de défricher de nouvelles terres, en fait, parce qu'il avait ça dans le temps.
Est-ce que tu serais d'accord pour dire que Stevie Ray Vaughan, dans les années 80, a fait découvrir ou redécouvrir à la jeunesse de l'époque Jimi Hendrix?
Ah bah moi ça a été clairement mon cas. Ouais. Moi en fait j'ai découvert Hendrix par le prisme de la version de Voodoo Child de Stevie Ray Vaughan.
D'accord.
C'est absolument énorme. Et du coup, à partir de là, j'ai pu rentrer plus facilement dans l'univers de Jimi Hendrix. Moi, en fait, Hendrix, je l'ai découvert par le biais de faire prise, en fait, au tout démarrage. Et puis après, je suis rentré dans son univers. Mais voilà, ça a été vraiment d'abord Stevie Ray Vaughan, puis les reprises de Jimi Hendrix, puis Jimi Hendrix, en fait. Home,
the night will let our lives, but they are feeling fine. They'll catch the bomb that we own, but we'll know they'll never be satisfied. They will scream at back limits, and we will be mystified. I can't get no silver, I can't get no gold. Just watching them lying on their thrones. I can't get no silver, I can't get no gold. All that left for us is dust and bones. They only left ground for the people. Hot, 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 hot stone. We can feed our children's dreams for cemeteries. But what happens to people who haven't that chance? We're living in a democracy, but the cave is what it needs. Between poor working people and the elite and the kings.
Clairement, on a compris que tu étais un acharné de la guitare, un bosseur, et je voulais savoir quelle était ta méthode. Comment est-ce que tu fais ? Est-ce que tu travailles dans le note à note pour faire tes reprises ? Est-ce qu'ensuite tu t'en détaches ? Comment est-ce que tu bosses un morceau finalement quand tu fais une reprise, on va dire ?
Ça dépend complètement du projet. Ça dépend complètement du projet. J'ai, on va dire, une routine de travail qui évolue avec le temps. Au début, je connaissais pas trop le solfège et tout ça, donc je faisais vraiment tout d'oreille. Puis après, vraiment, je me suis intéressé à l'harmonie. Puis après, je me suis intéressé à la technique et tout, parce que... Enfin, il y avait des choses que j'avais du mal à jouer, donc du coup, il a fallu que je me penche vraiment sur cet aspect-là. Aujourd'hui, sur certains projets, par exemple, là, tu vois, on est ensemble, et tout à l'heure, je fais un concert avec un truc qui s'appelle Hard as a Rock, qui est un concert conférence sur l'histoire du hard rock. Là, je reprends tout à la note.
Ouais.
Par contre, si tu viens à un concert de Phil Vermont, je jouerai jamais deux fois le même solo. On est plus sur de la musique improvisée, et justement, c'est ça qu'on essaye de cultiver. Donc, ça dépend vraiment des morceaux, des projets, du contexte, en fait.
Ça dépend du contexte, et puis ça dépend dépend aussi peut-être de l'idiome, parce que je crois que outre le blues rock, le hard rock, tu te produis également dans un autre domaine qui s'appelle la country music, celle qui est principalement influencée par Johnny Cash et d'autres. Et ça fait un moment que tu joues aussi sous cette appellation-là, sous cette étiquette-là, on va dire.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, ça a été pareil, une opportunité à un moment où j'avais un peu moins de boulot. On m'a proposé ce job-là. À l'époque, je chantais assez peu. En fait, j'avais juste un groupe de cover justement de Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughan, et il n'y avait que dans ce contexte-là que je chantais. Sinon, je faisais des chœurs à droite à gauche.
Ouais.
Effectivement, Texas Line m'ont appelé parce qu'ils venaient de perdre leur guitariste chanteur. Là, on m'a expliqué qu'il allait falloir que je chante 3h30 d'affilée. Je fais oula, ça va être compliqué. Et puis finalement, je m'y suis collé à fond et j'ai découvert toute une culture, en fait, un espèce de chaînon manquant et au niveau culturel et au niveau guitaristique par rapport à ce que j'avais travaillé. En fait, il y a beaucoup de vocabulaire country qui est passé dans le blues et qui est passé dans le rock. Donc du coup, j'avais déjà quelques trucs sous les doigts. Et de fil en aiguille, effectivement, le groupe a continué de progresser. On joue régulièrement à Musedans, à Rêve de Bison. Et donc c'est un super labo parce qu'on a 12 à 15 dates l'année là-bas. On peut essayer vraiment des choses, plein de morceaux, plein de manières de faire bouger le public. Et je me suis pris, assez d'affection pour la country, à tel point que on va sortir un album aussi cette année avec Texas Line de compo où j'ai écrit 8 ou 9 titres sur le disque, et le bassiste en a écrit 4 ou 7. Donc, oui, je suis à fond dans le truc sur la country.
Je te qualifiais tout à l'heure de bosseur acharné, j'étais encore loin du compte, effectivement, quand on constate tout ça, tout ce que tu fais. Et puis ton projet personnel qui s'appelle Phil Vermont, c'est ça, hein, quand tu joues avec tes propres compositions, tu l'as dit, tu fais pas deux fois le même solo. Et quel est ton public avec cette formation-là? Est-ce que tu vises les festivals de métal? Est-ce que tu vises les festivals de blues? Comment ça se passe pour eux?
Alors, pas les festivals de métal vraiment, mais par contre, pour avoir eu un groupe de métal, je pense que, en fait, il se trouve que, par exemple, le mec qui fait la promo pour Joe Bonamassa en France, c'est le même qui fait la promo pour plein de groupes de rock et de hard rock.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a des ponts. À la base, c'était un projet qui était quand même plutôt destiné au public, je dirais pas au public blues pur et dur, parce que c'est pas du blues pur et dur, voilà, il y a assez peu de morceaux ternaires, on n'est pas, c'est pas Muddy Waters, quoi, clairement, on n'y est pas, mais par contre, il y a aussi toute une génération dans le public blues qui ont écouté Johnny Winter, justement, qui sont fans aussi de blues rock 70s, qui là, à mon avis, eux, ils vont bien retrouver leur compte dans ce que je fais, et puis les amateurs de rock de tout poil aussi, hein, je pense effectivement que dans le public rock, hard rock, il va y avoir pas mal de gens qui vont pouvoir se retrouver dans ce que je fais. Enfin, j'espère. L'avenir le dira.
L'avenir le dira, parce qu'on a déjà pas mal de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu pas mal de kilomètres derrière toi par rapport à toutes les dates que tu as pu faire et puis les premières parties qu'on va évoquer dans quelques secondes. Mais également, l'avenir est à toi. On va parler des projets tout à l'heure. Je voulais savoir, parmi les premières parties que tu as pu faire, est-ce qu'il y avait des gens, parmi les vedettes devant lesquelles tu as pu jouer, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement marqué, avec qui tu as réussi à échanger? Moi, j'ai lu quelque part que tu avais fait Bernard Lavilliers, Francis Cabrel, Amadou et Mariam, mais également FFF ou La Rue qui est à nous. Est-ce que ce sont des artistes avec qui tu as pu échanger tout d'abord?
Alors, finalement, assez peu.
Ouais.
Assez peu, parce que à l'époque où j'ai fait ces premières parties-là, j'étais dans un groupe qui s'appelait La Familia. On était très nombreux. Et en fait, c'était quand même des gros festivals. Donc, on était un peu chacun dans nos loges et tout ça. Il y a quand même quelques personnes, oui, avec qui j'ai pu échanger, notamment le guitariste de FFF, Yarol Poupeau.
Oui.
On jouait vraiment juste avant eux. Et donc, du coup, oui, on a pu se parler un petit peu. Après, voilà, c'est resté très très superficiel malgré tout. Et récemment, à vrai dire, avec Neil Black, par contre, on a bien phasé, on a bien échangé, donc voilà, peut-être par la suite.
Peut-être par la suite, il y aura des choses qui vont se faire.
Il y aura des choses qui vont se faire, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire.
Oui, donc cette rencontre qui s'est faite un petit peu par hasard, mais un petit peu aussi quand même grâce à certains Jean-Michel Tallier et puis aussi un garçon. Tiens, je te laisse citer celui qui a mis en contact, qui t'a mis en contact avec le Soubok. Tu peux en parler, parce que
oui, tout à fait. Bah, c'est Kevin Buckley.
Kevin Buckley.
Un artiste de country renommé et un booker renommé, étant donné que ça fait des années qu'il fait venir justement des Américains en France, qui monte des équipes derrière ces Américains de Français pour que les mecs puissent jouer comme à la maison, quelque part. Donc voilà, oui, la rencontre avec Kevin. En fait, Kevin, il est pour beaucoup dans l'évolution de ma carrière. C'est lui qui m'a branché avec Texas Line, donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans la country, après avoir vu mon cover de Stevie Ray Vaughan. Et à vrai dire, il book Texas Line maintenant depuis quelques mois. Donc quand je lui ai dit bah voilà, j'ai un super projet avec des gars que tu connais, ça joue super et tout. Donc il n'est pas le booker de Phil Vermont vraiment, mais par contre voilà, il me file des petits coups de main de temps en temps, d'où cette date au Soubok.
Voilà, Kevin Buckley, voilà. Donc qui lui aussi est un très très gros bosseur, et pas seulement en matière de country music, que j'ai vu organiser des choses notamment sur le Parc Expo de Caen, et puis qui lui aussi s'est produit sous son propre nom au Soubok il y a quelques années encore. Et puis voilà, toutes ces rencontres que tu peux faire, que ce soit en Seine-Maritime ou on va dire au sens plus large à l'occasion de tes tournées, il y a des gens comme ça particulièrement, que ce soit des Français, des Européens ou des Américains, des gens qui t'ont donné des conseils, qui t'ont donné des orientations pour savoir comment se positionner sur scène, savoir comment jouer, des conseils scéniques, des conseils artistiques. Est-ce que
alors,
t'as comme
pas
ça
trop. En fait, je fais tout un peu à l'instinct. J'ai pas cette chance-là. J'ai eu quand même un parcours à un moment où j'ai fait des écoles à Paris, des écoles de jazz notamment, où là, on m'a donné des conseils pour l'harmonie et tout ça. Mais par contre, par rapport à tout ce qui est scénique et tout, j'ai toujours été un peu mon propre producteur, en fait, en général, celui qui fait les prises et qui est derrière l'ordinateur et qui prend les décisions quand on fait des albums, c'est souvent moi. Et justement, j'aime quand ça se passe un peu différemment, justement. Il y a quand même une rencontre que j'ai fait assez récemment, c'est celle de Fred Duquesne, qui est le guitariste de Mass Hysteria, mais qui a produit aussi pas mal de choses, de Brigitte, notamment, enfin, des choses qui ont marché et qui sont super bien mixées et produites. Et pour le coup, là, les échanges avec lui, ça a été super, super intéressant, parce que la vision de producteur, t'es pas seulement dans un truc de compositeur ou de musicien, tu prends vraiment de la hauteur, tu regardes vraiment le projet d'un peu plus loin, et du coup, ça te permet d'avoir un regard différent, en fait, sur les projets, sur les disques des groupes.
Bien sûr, quand on n'est pas parti pris et ni musicien ni forcément intervenant, ou alors peut-être un petit peu guest sur un morceau ou deux, ça donne des ailes, ça permet, tu l'as dit, d'avoir un zoom différent. C'est le genre de carrière qui te tenterait, parallèlement à la musique, d'entrer de plein pied dans la production, Phil ?
Pour moi, en fait, tout ça, c'est lié. Moi, j'envisage pas la musique. Enfin, aujourd'hui, avec le développement des laptops, chacun a son home studio et tout ça, aujourd'hui, quand t'es compositeur, t'es souvent un petit peu arrangeur et producteur aussi.
Ouais.
Et effectivement, moi, ça fait partie des choses qui me plaisent dans la musique. J'aime bien gérer des équipes et essayer de les amener au-delà de ce qu'ils peuvent produire normalement.
Voilà, que ce soit pour ta musique, et la question elle allait aussi dans plusieurs sens, ça peut être également pour d'autres musiciens, justement, à qui tu pourrais rendre l'appareil quand on t'a donné peut-être des petits conseils au tout début, toi aussi, former des plus jeunes et puis leur montrer le chemin.
Bien sûr, mais c'est quelque chose que je fais déjà un petit peu par le biais de l'enseignement. J'ai quelques heures d'enseignement au conservatoire de la Côte d'Albâtre, et c'est déjà un petit peu dans cette idée-là. D'ailleurs, il y a quelques guitaristes que j'ai là-bas qui vont faire parler d'eux, je pense, d'ici quelques années. Oui, c'est quelque chose, ce passage de relais, c'est un truc qui est super important. Après, au niveau de la production, oui, je suis enchanté de le faire aussi, mais j'ai pas eu pour l'instant beaucoup l'occasion de le faire.
Mais tu as encore de nombreuses années devant toi, bien sûr, pour le faire.
Shining star. You watch your 17, so beautiful and fresh. I couldn't resist when you broke to have a drink such way. Sexy, sexy, sexy. Baby, you should be all night long. Sexy, sexy, sexy. Baby, you should be all night long. When I see your body, you don't stop to tell me. So high, then so high. But I didn't want to have a girlfriend, so I had to say goodbye. I did not understand that the trap was coming round. It didn't take a long time before I realized we were bound. Like a many morning, I was out to think by you. I'm going to see you one last night, and after that we're true. Sexy, sexy, sexy. Baby, you should be home like no. When I see your body, you don't stop to tell me on.
last time. I guess I need to never see you again. No way for me to put it back. I didn't want no chance. When you called me a few days late, I began to hesitate. Cause every time I remember the old shameful thing, you just made me mad. When I have it all on, you feel by the way. Little did I know that forever I will stay. Sexy, sexy, sexy. Baby, you shook me all night long. Sexy, sexy, sexy. Baby, you shook me all night long. Sexy, sexy, sexy. Baby, you shook me all night long. When I see your body, you don't stop to tell me.
On va revenir un petit coup de rétroviseur sur le passé avec un groupe qui s'appelait Super Scream, avec qui tu as enregistré deux albums. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le groupe n'a pas duré ? Comment ça s'est passé ? Il y a eu quand même de bonnes critiques de presse.
Ah, il y a eu super critiques et à vrai dire, le groupe
n'est pas mort.
N'est pas enterré.
D'accord.
Pas du tout. En fait, on a mis le truc un peu en pause. En fait, à vrai dire, on a un DVD live qui est censé sortir l'année prochaine.
D'accord.
Qui a été filmé il y a très très longtemps. De ça, et en fait, c'est un peu la vie qui a fait que moi, je suis devenu papa. Le chanteur aussi, c'est un peu une hydre à deux têtes, Super Scream. Il y a vraiment Eric Parrish, le chanteur, qui est un chanteur lyrique, qui fait une belle carrière en lyrique à côté, donc qui est très très pris aussi. Moi, il se trouve que quand j'ai commencé à démarrer la country, les concerts ont commencé à s'enchaîner beaucoup, donc on a eu un peu moins de temps pour Super Scream, mais on a quand même fait ce DVD live. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si on refera un album avec Super Scream. Voilà, je pense qu'on va sortir le DVD, voir un petit peu les retours, et puis on verra s'il en est. Après, Eric Parrish, il a une belle carrière de son côté, moi aussi, donc c'est un peu, faut gérer tout ça et c'est pas forcément évident.
J'ai une question, Phil, qui va être un petit peu plus générale et qui peut-être te demandera là aussi de prendre un petit peu de hauteur. Je voulais savoir comment tu te situais, toi, soit en tant qu'artiste ou en tant que guitariste, en tant que compositeur, enfin en tout cas en tant qu'acteur de la musique en France par rapport à tout le reste de la scène. Comment est-ce que tu te situes ?
Pour moi, clairement, je vise à être guitariste, chanteur, compositeur, ouais. Producteur, si c'est possible. Producteur, c'est en plus, après, comme je disais, je suis aussi ravi quand c'est quelqu'un d'autre qui prend les rênes et qui, du coup, m'amène plus loin que ce que je peux faire seul. Mais voilà, clairement, aujourd'hui, le chant a pris une part plus importante dans ce que j'aime dans la musique, en fait, parce qu'il y a un rapport beaucoup plus direct avec les gens qu'avec la guitare. Du coup, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est voilà, clairement, de toute façon, dans ce projet Phil Vermont ou dans la country, c'est moi qui chante. Et puis, je m'y suis un petit peu habitué, en fait. Et puis, j'aime ça. Donc, voilà, j'aimerais développer ce truc de compositeur, guitariste, chanteur, quoi.
D'accord. Et alors, une question, Phil, par rapport à tes fans. Comment on fait pour te suivre ? Tu as un site, tu as Facebook. Comment est-ce que tu communiques ? Comment est-ce qu'on connaît les prochains endroits où tu pourras te produire ?
Alors, le mieux, c'est ma page Facebook, clairement, Philippe Vermont. Voilà, il faut me rechercher sur Facebook. Là, il y a vraiment toutes les infos. Sinon, en fait, c'est par projet. C'est-à-dire que si tu cherches Phil Vermont tout attaché sur Google, tu vas tomber sur le projet dont on a parlé là, plus blues rock et tout ça. Mmh. Mais si tu veux vraiment avoir toutes les dates de concert avec tous les projets, le meilleur endroit, c'est ma page Facebook où je mets tout en ligne régulièrement.
Très bien. Let me there. Vermont, je voudrais te poser une toute dernière question. Alors, les prochaines fois qu'on va pouvoir te voir jouer, allez, à l'automne, fin d'été, début de l'automne, ça sera à quel endroit ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite ?
Alors, on a le 1er octobre au Happy Doc. Alors là, on parle évidemment du projet Phil Vermont, hein, pas des autres projets, sinon il y a plein de dates cet été, notamment avec Texas Line. Là, pour le coup, vaut mieux aller faire un tour sur le site de Texas Line directement pour les avoir. Mm-hmm. Sinon, pour Phil Vermont, donc ce sera le 1er octobre au Happy Doc du Havre et le 8 octobre au Clos des Fées à Paluel. Il y a d'autres dates normalement qui devraient arriver rapidement là d'ici quelques semaines. On a des choses en cours de signature, mais pour l'instant je peux rien dire. Donc voilà, pareil, rendez-vous sur le site et là vous aurez toutes les dates en temps réel. Et puis qu'est-ce qu'il me faut me souhaiter ? Bah que tout ça continue et notamment que ce nouveau projet Phil Vermont continue de se développer et qu'on puisse faire des belles scènes et des beaux disques qui rencontreront leur public.
Prochain album Phil Vermont The Electric Wizards, Your Time Has Come, c'est en projet, c'est déjà enregistré, ça va sortir, ça se passe comment ?
Alors, c'est écrit, en fait, moi j'ai déjà 20 titres d'écrits pour ce projet-là, écrits et maquettés. Ça a été maquetté en fait avant le Covid, puis il y a eu le Covid, du coup on a dû arrêter les concerts, enfin du coup ça a mis une petite pause sur le projet.
Ouais.
Du coup, là, on a prévu d'enregistrer l'album pour début janvier. En fait, normalement, je suis censé finir l'album de Texas Line sur les derniers mois de l'année, là, et enquiller direct avec mon album, début janvier. Donc je pense premier semestre 2023.
Phil Vermont, un artiste qui bouge, un artiste qui se bouge, un artiste qui nous bouge, voilà, vu dans la région, en tout cas dans le Calvados, il n'y a pas très longtemps, en première partie de Neil Black et Janet Martin. Donc on va pouvoir suivre. Et n'hésite pas, hein, tu me fais signe s'il y a une nouvelle actualité. Et puis au moment de la sortie de l'album, on en diffusera bien sûr de nouveaux extraits, surtout s'il y en a d'autres par rapport à ceux que tu m'as envoyés. Ça sera avec grand plaisir, Phil.
Ouais. Pas de souci, pareil, ce sera partagé.
Merci Phil pour la suite et puis bravo pour ce que tu fais déjà. Je te remercie pour cette interview et on se retrouve très bientôt.
Ça marche, à bientôt.
Au revoir Phil.
Au revoir.
You're my soulmate, my ecstasy. I've seen so much love in me, like a drug, like a remedy, my sweet addiction. hurts. Now I feel it in my veins, like a medication. Sweet injects broke my chains.
Time's passing by, don't ever grow.
But time.
Voilà, c'était cette rencontre avec Phil Vermont qu'on va prolonger tous ensemble avec un titre. On va remonter en 1970. Ça a été enregistré live à Copenhague. Je vais parler de monsieur Johnny Winter, le titre Be Careful with the Fool.
Be careful.
for my sin.
Eh oui, fabuleux Jerry Winter, live en 1970, en trio, s'il vous plaît, avec un certain Uncle John Turner à la batterie et Tommy Shannon, le bassiste, qui deviendra plus tard le bassiste de Stevie Ray Vaughan. On poursuit avec un truc de 1972, ça c'est dans la rubrique 50 Years After. Le deuxième album de Bonnie Raitt s'appelait Give It Up. Voici le titre album Give It Up or Let Me Go, Bonnie Raitt, il y a 50 ans.
Well,
Miss Bonnirette, on était en 1972 et on va se quitter avec un dernier extrait du disque du mois. Il s'agit toujours de Into Your Blues de Monsieur Johnny Sansone et on va se retrouver la semaine prochaine avec trois invités. Voici donc Monsieur Johnny Sansone. Salut, bye bye.
There won't be